Généralement, quand on ouvre un texte religieux antique, on s'attend à un truc plutôt apaisant. Genre une morale bien ordonnée, calme, un peu comme une mer d'huile.
Ouais, la petite sagesse tranquille pour bien finir la journée.
Exactement. Sauf que pour notre plongée d'aujourd'hui, on va analyser les notes du docteur Craig Kinner sur le fameux chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu.
Le très célèbre sermon sur la montagne, donc.
Voilà. Et là, la mer d'huile se transforme immédiatement en tempête. Je suis vraiment prêt à décortiquer ça avec toi parce que notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas d'en faire une lecture pieuse.
Non, clairement pas. L'idée, c'est d'analyser un paysage rhétorique qui est franchement, qui est super étrange quand on s'y penche de près.
Complètement. On va y croiser des blagues acerbes sur des placentas de mules, des légendes mystiques avec des lettres d'alphabet qui pleurent. Enfin bref, un vrai choc culturel.
Et c'est justement ce choc qui est fascinant. L'objectif de notre exploration, c'est de comprendre pourquoi ce texte vieux de 2000 ans continue d'être décrit par les chercheurs comme d'une véritable férocité radicale.
Férocité radicale, le terme est posé. Et on va voir comment l'orateur utilisait des techniques de choc pour forcer son auditoire à une transformation intérieure totale. Mais d'abord, parlons de cette fameuse férocité, parce que l'histoire montre que l'humanité a eu énormément de mal à gérer ce texte.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Avant même de regarder les mots précis du texte, c'est super intéressant d'observer les stratégies de défense que les gens ont développées au fil des siècles.
Pour essayer d'apprivoiser le discours, c'est ça ?
Ouais. Tout à fait. Parce que quand un texte te demande de tendre l'autre joue à quelqu'un qui te frappe ou de renoncer à absolument tous tes biens matériels, ça pose un léger problème logistique pour la vie de tous les jours.
Un léger problème, oui, c'est un euphémisme. Du coup, comment les premières générations s'en sont sorties ?
Au tout début, on a eu une approche très littérale. Pense par exemple aux pères du désert, au 3e siècle.
Les premiers moines chrétiens, ceux qui s'isolaient en Égypte.
Exactement. Eux, ils prenaient l'injonction au mot. S'il fallait tout sacrifier, le confort, la richesse, pour atteindre la perfection, eh bien, ils partaient littéralement vivre dans des grottes, dans des contrées arides.
Ok, je respecte l'engagement, mais bon, une société entière ne peut pas fonctionner si tout le monde part vivre dans une grotte dans le désert.
Bah non, évidemment. L'économie s'effondre direct. Il n'y a plus d'agriculture, plus de commerce, plus rien.
Du coup, comment les époques suivantes ont fait pour gérer cette impossibilité pratique de la vie en société ?
C'est là que l'Église médiévale entre en jeu. Elle a inventé une solution super pragmatique. Un système à deux vitesses, en fait.
Attends, comment ça un système à deux vitesses ?
Eh bien, à cette époque, l'Église était devenue une vaste institution, presque un État. Et une société civile, ça a besoin de chevaliers pour la défense, de marchands pour créer de la richesse, de tribunaux pour punir les criminels.
Ouais, on ne peut pas juste tendre l'autre joue quand une armée ennemie débarque.
Voilà. Donc ils ont compartimenté les exigences du texte. L'idée, c'était que les commandements vraiment radicaux, la pauvreté absolue, le pacifisme total, c'était ce qu'ils appelaient des conseils évangéliques.
D'accord.
Et ces conseils étaient réservés exclusivement au clergé et aux moines. Eux portaient le lourd fardeau de la perfection pour les autres.
Ah, malin. Une sorte de voie VIP de la sainteté.
C'est exactement ça. Pendant ce temps-là, le commun des mortels, du paysan au roi, lui, n'était tenu qu'à des règles de base, beaucoup moins extrêmes.
C'est fascinant comme mécanisme de défense intellectuelle. En gros, on neutralise la radicalité du truc en disant que c'est pour les professionnels de la religion, pas pour les gens normaux.
C'est ça. Et d'ailleurs, le philosophe Søren Kierkegaard a été absolument féroce sur ce point au XIXe siècle. Il maniait une ironie mordante.
Qu'est-ce qu'il disait exactement ?
Il disait en substance que toute l'érudition chrétienne depuis des siècles n'a servi qu'à une seule chose, trouver des excuses ultra sophistiquées pour contourner le texte. Et ces conseils étaient réservés exclusivement aux clergés et aux moines. Eux portaient le lourd fardeau de la perfection pour les autres.
Ah. Malin. Une sorte de voie VIP de la sainteté.
C'est exactement ça. Pendant ce temps-là, le commun des mortels, du paysan au roi, lui n'était tenu qu'à des règles de base, beaucoup moins extrêmes.
C'est fascinant comme mécanisme de défense intellectuelle. En gros, on neutralise la radicalité du truc en disant que c'est pour les professionnels de la religion, pas pour les gens normaux.
C'est ça. Et d'ailleurs, le philosophe Søren Kierkegaard a été absolument féroce sur ce point au XIXe siècle. Il maniait une ironie mordante.
Qu'est-ce qu'il disait exactement ?
Il disait en substance que toute l'érudition chrétienne depuis des siècles n'a servi qu'à une seule chose, trouvait des excuses ultra sophistiquées pour contourner le texte. Il prenait l'exemple de l'injonction de tout vendre et de donner aux pauvres. Kierkegaard ironisait grave là-dessus. Il disait que si on appliquait ça à la lettre, toute la société finirait par mendier dans la rue.
Ce qui est mathématiquement vrai.
Oui. Donc il conclut avec un grand sarcasme qu'il fallait remercier tous ces savants théologiens parce que grâce à eux, on pouvait lire le texte tout en gardant très confortablement nos maisons et nos comptes en banque.
C'est cinglant. Et je crois que Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand, allait un peu dans le même sens dans les notes, non ?
Complètement. Bonhoeffer, qui a d'ailleurs été martyrisé sous le régime nazi parce qu'il refusait le moindre compromis, notait exactement la même chose. Il disait qu'on passe beaucoup plus de temps à chercher des échappatoires qu'à chercher comment obéir.
Alors, ça pose une énorme question pour notre auditoire. Si d'un côté, on ne doit pas tout prendre au premier degré mathématique sous peine de détruire la société, mais que de l'autre, on ne peut pas non plus juste l'ignorer. Comment on est censé lire ça ?
Eh bien, les notes du docteur Kiner mettent en lumière un élément central pour comprendre. C'est l'utilisation constante de l'hyperbole.
L'hyperbole, donc l'exagération. C'est la clé du code.
C'est le cœur de la rhétorique antique, particulièrement celle des sages juifs du 1er siècle. Ce n'est pas un mensonge ou une erreur de calcul de leur part. C'est une exagération volontaire et hyper dramatique, pour forcer l'attention.
Tu aurais un exemple tiré des notes de Kiner pour illustrer ça ?
Bien sûr. L'orateur de notre texte parle à un autre moment d'un serviteur qui doit à son roi la somme de 10 000 talents.
10 000 talents, ok. Ça représentait quoi concrètement à l'époque ?
Pour te donner une idée de l'absurdité de la scène, un seul talent, un seul, ça représentait environ 15 années de salaire pour un ouvrier agricole.
Waouh ! 15 ans de salaire pour un seul talent !
Ouais, donc 10 000 talents, c'était plus que toute la monnaie physique qui circulait dans le monde entier à cette époque, à part peut-être les réserves impériales de Rome, et encore.
Donc mathématiquement parlant, c'est complètement ridicule.
Totalement. C'est du même acabit que quand il utilise des images hyper graphiques en parlant de ministres corrompus qui seront littéralement découpés en morceaux. C'est du gore pour choquer.
Si je ramène cette mécanique à notre époque, moi ça me fait penser direct au titre racoleur sur Internet. Le fameux putaclic, tu vois.
Ah oui, le clickbait.
Voilà. Le but n'est absolument pas que l'audience sorte une calculatrice pour faire le bilan comptable des 10 000 talents. Le but, c'est de créer un choc psychologique immédiat. En gros, l'orateur secoue son public par le col pour le forcer à regarder la vérité qui se cache en dessous.
C'est une super analogie. L'orateur crée une dissonance cognitive qui t'empêche de rester passif. Tu es obligé de réagir.
Et comment les chercheurs résolvent cette tension ? Parce qu'on a d'un côté une exigence apparemment impossible, et de l'autre, la réalité de la condition humaine.
Ils utilisent un concept qu'on appelle l'eschatologie inaugurée.
Oula, eschatologie inaugurée, il va falloir traduire pour moi.
Pas Stanix, c'est simple en fait. C'est l'idée que le royaume décrit dans ce discours est déjà là. Il est présent dans les principes éthiques, dans les cœurs des gens, mais il n'est pas encore totalement accompli dans la réalité physique de notre monde.
Déjà là, mais pas encore fini.
Voilà. Le texte donne une boussole morale absolue, un idéal parfait vers lequel tu dois tendre, tout en sachant très bien que tu navigues dans un monde qui est profondément, profondément imparfait.
D'accord, je comprends mieux. Guidé par cette idée d'un royaume déjà là, mais pas accompli, comment l'orateur choisit de démarrer ce fameux discours ? Parce que dans les notes, on voit qu'il ne commence pas du tout par un traité de théologie super aride.
Ah non, pas du tout. Il démarre avec un poème qui est hautement subversif, les Béatitudes.
Planter le décor est important ici, je crois.
Très. L'orateur monte sur une montagne et s'assoit pour enseigner. Il faut bien comprendre que dans l'inconscient collectif d'un public juif du 1er siècle, un enseignant qui s'assoit, c'est quelqu'un qui affirme une autorité absolue.
Et la montagne, ça évoque direct Moïse, non ?
Exactement. C'est un écho direct à Moïse qui reçoit la Torah sur le mont Sinaï. Et la forme même du poème est super travaillée. En grec, les quatre premières louanges commencent toutes par la lettre P.
Un petit moyen mnémotechnique élégant.
Oui. Mais c'est le fond du poème qui est littéralement explosif. Ce texte, c'est le manifeste d'un royaume complètement à l'envers par rapport aux valeurs de l'époque.
À quel point c'était à contre-courant de ce que les gens espéraient entendre ? On est sous l'occupation romaine, rappelons-le.
C'était le grand écart total. La majeure partie de la population espérait un messie guerrier. L'attente générale, c'était que le royaume appartiendrait à ceux qui prendraient le pouvoir par la force brute, qui chasseraient les légions romaines avec des épées.
Et la révolte armée, classique.
Mais le poème dit l'inverse absolu. Il affirme que le royaume appartient aux pauvres en esprit, aux cœurs brisés, aux humiles, aux persécutés, aux artisans de paix. C'est un rejet catégorique et total de la violence comme outil de justice.
Mais je suis ça terrifiant quand on y pense. T'es devant des gens opprimés par la brutalité de l'Empire romain et tu leur dis « les dos hériteront de la terre », ce qui est une promesse du Psaume 37 d'ailleurs. Ça ressemblait à une recette pour un suicide collectif, non? Tendre l'autre joue face à la légion romaine, ça parlait d'une naïveté confondante.
Eh bien c'est là que l'histoire est fascinante. Parce qu'elle a prouvé que ce n'était pas du tout de la naïveté politique de sa part, c'était une analyse implacable de la réalité.
Vraiment? Ah? Comment ça?
Prends l'exemple du mouvement des Zélotes, en l'an 66 de notre ère, donc une génération après ce discours. Eux, ils ont fait le choix inverse des béatitudes. Ils ont cru que Dieu allait soutenir une rébellion armée contre Rome.
Ils ont pris les armes, persuadés d'avoir une guerre sainte à mener.
C'est ça, et le résultat était purement apocalyptique. En l'an 70, les légions romaines sont revenues, elles ont écrasé la révolte dans un bain de sang effroyable, elles ont détruit le temple et rasé Jérusalem jusqu'aux fondations.
Donc, ce que l'orateur proposait avec son approche pacifique, ce n'était pas juste pour être gentil.
Pas du tout. Historiquement parlant, la voie de l'insurrection militaire a mené à l'anéantissement pur et simple du pays. La sagesse de la non-violence a été paradoxalement et tragiquement d'ailleurs validée par l'histoire comme étant la seule et unique stratégie de survie possible face à un monstre comme Rome.
L'héritage de la Terre repose donc sur une intervention divine future et pas sur l'épée humaine.
Exactement.
Très bien. Si cette identité pacifique, c'est la clé d'un royaume qui survit à la destruction, comment est-ce que cette identité intérieure doit se manifester à l'extérieur? Parce que l'orateur utilise des métaphores hypermatérielles dans le texte.
Oui, il dit que ceux qui incarnent ces valeurs à contre-courant sont le sel de la terre et la lumière du monde.
La fameuse image de la ville sur la colline.
Voilà, une ville fortifiée qui brille sur une colline, que tout le monde peut voir de loin. Mais l'avertissement qui accompagne ça est sévère. Il demande ce qui se passe si le sel perd sa saveur.
Bah, il ne sert plus à rien.
C'est ça, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et pour vraiment saisir l'ironie cinglante de cette image, le docteur Kinner rappelle une anecdote historique géniale concernant le rabbi Tarfon.
Ah oui, j'adore ce passage de ses notes. On est à la fin du 1er siècle, c'est ça?
Oui. Quelqu'un vient voir ce célèbre rabbin avec une question qui se voulait très philosophique et profonde. Il lui demande « Maître, que doit-on faire du sel qui a perdu sa saveur ?»
Et la réponse du rabbin est magistrale.
Avec le plus grand des sérieux. Le rabbi lui répond « Salez-le avec le placenta d'une mule. »
Mais attends, c'est complètement absurde. Une mule, biologiquement parlant, c'est le croisement entre un âne et une jument. C'est un animal qui est stérile.
Complètement.
Donc une mule ne peut pas se reproduire. Par définition biologique, elle n'a pas de placenta. C'est une impossibilité absolue.
Et c'est tout le génie de la répartie rabbinique de l'époque. Le rabbi Tarfon répond à l'absurde par l'absurde. Parce que du sel qui perd sa saveur, d'un point de vue purement chimique, c'est impossible.
Ah, parce que s'il n'est plus salé, ce n'est plus du sel.
Exactement. C'est juste devenu du sable ou de la poussière. Le message de l'orateur dans notre texte est le même. Prétendre appartenir à ce royaume sans en vivre concrètement les valeurs pacifiques, c'est une contradiction totale.
Un disciple qui ne vit pas les béatitudes, c'est aussi inutile qu'une mule avec un placenta ou qu'une lampe allumée qu'on mettrait sous un seau.
T'as tout compris.
Mais justement, là, je bloque sur un truc. Si cette identité doit être visible par tous, comme la ville sur la colline, ça crée un risque énorme de tomber dans l'orgueil, non?
Ah, tu mets le doigt sur une tension narrative majeure du texte.
Parce qu'au chapitre 5, il dit carrément « Laissez briller votre lumière devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres ». Mais juste après, paf, chapitre 6, changement de ton. Il dit de faire attention à ne pas pratiquer sa justice devant les hommes et que la main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite. C'est hyper contradictoire.
C'est un paradoxe frontal, c'est sûr.
Comment on peut demander de cacher ses œuvres caritatives tout en exigeant qu'elles brillent à la vue de tous? C'est schizophrénique?
T'en as l'air pour nous, mais... Les sages juifs utilisaient tout le temps ce genre de paradoxe pour forcer leurs élèves à réfléchir. L'orateur ne cherche pas à dicter une règle de conduite universelle sur la visibilité des dons aux œuvres de charité.
Ok, donc c'est quoi le but de ce paradoxe alors?
Ça sert de scalpel en fait. Un scalpel pour interroger la seule chose qui a de la valeur à ses yeux, la motivation secrète de ton cœur.
Pourquoi tu fais le bien au fond?
Exactement. Si tu caches tes bonnes œuvres par une fausse modestie hyper calculée, juste pour que les gens finissent par deviner à quel point tu es humble.
La fausse humilité, le pire truc.
Voilà. Et à l'inverse, si tu les affiches publiquement avec des trompettes pour gonfler ton ego, tu es dans l'erreur dans les deux cas. Le texte exige que l'action soit juste le prolongement naturel d'une intention pure, tournée vers le divin. que l'action finisse par être vue ou qu'elle reste secrète, ça devient un détail secondaire face à l'intégrité de ta motivation.
D'accord, cette focalisation extrême sur le cœur, ça nous amène au vrai point de bascule du chapitre. Parce que si la loi religieuse antique, elle, était basée sur des actions extérieures mesurables, genre ce que tu manges, comment tu te laves, et que maintenant seule la pureté intérieure compte, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que l'orateur annule purement et simplement toutes ces vieilles règles, qu'il dise de tout remplacer par l'amour, point barre.
On pourrait s'y attendre, oui. Mais il fait très exactement l'inverse.
Ah ouais.
Il radicalise la loi. Il affirme avec une solennité totale que pas un seul petit trait de lettre de la loi de Moïse ne passera.
Pas un seul petit trait.
Rien. Les notes de Kenner examinent un détail génial là-dessus. C'est l'histoire du yod.
Le yod, c'est la lettre hébraïque, c'est ça ?
Oui, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Visuellement, ça ressemble à peine à une petite apostrophe. Eh bien, la tradition rabbinique regorge d'histoires sur l'importance vitale de cette minuscule lettre.
Genre quoi comme histoire ?
Par exemple, tu as l'histoire de la matriarche Sarai, la femme d'Abraham. Quand Dieu a changé son nom en Sarah, le yod qui a été retiré de son nom original se serait mis à pleurer auprès de Dieu.
Une lettre qui pleure carrément ?
Dieu, des siècles plus tard, la console enfin en la replaçant dans le nom de Josué.
C'est fou la valeur accordée à un simple signe typographique. Donc, aucune lettre n'est sacrifiable. Mais comment ça se traduisait face aux figures d'autorité de l'époque ?
Même les plus grands rois ne sont pas au-dessus d'une simple virgule. Tu as une autre légende très connue sur le puissant roi Salomon.
Celui de la sagesse légendaire ?
Lui-même. Salomon pensait que, grâce à son immense sagesse, il pouvait se permettre d'effacer un seul yod d'un commandement divin, celui qui limitait le nombre d'épouses pour un roi.
Et comment Dieu a réagi dans l'histoire ?
La tradition dit que Dieu est intervenu directement pour avertir que 1000 rois Salomon seraient déracinés de la surface de la terre avant qu'un seul yod ne disparaisse des Écritures.
Waouh, 1000 Salomon pour une apostrophe.
Le principe théologique derrière, c'est que la loi forme un écosystème indivisible. Tu ne peux pas piocher à la carte ce qui t'arrange et jeter le reste. Les rabbins enseignaient qu'un commandement qui a l'air mineur, comme le fait d'épargner une mère oiseau quand on prend ses œufs.
Ce qui semble être un détail très anecdotique.
Oui, eh bien ce commandement mineur entraîne la même récompense vitale que le plus lourd des commandements, comme le fait d'honorer ses propres parents.
Mais du coup, ce maintien absolu de la loi, ça pose un problème colossal pour le public de l'époque, non ? Parce que d'un seul coup, l'orateur exige que la justice de son auditoire surpasse celle des scribes et des pharisiens.
Oui, et ça a dû faire l'effet d'une bombe nucléaire.
Historiquement parlant, c'est une demande qui frise le délire. Je veux dire, les pharisiens, c'était l'élite absolue de l'observance religieuse, non ?
C'était les champions du monde de la loi. Ils jeûnaient 2 fois par semaine, de manière stricte.
Et ils payaient la dîme, l'impôt religieux, même sur les herbes minuscules de leur jardin, genre la menthe ou le cumin.
Exactement, rien ne leur échappait.
Alors comment, je sais pas moi, de simples paysans galiléens ou des pêcheurs illettrés pourraient-ils espérer être plus justes que des professionnels qui passent leur vie entière à perfectionner l'obéissance aux règles ?
C'est précisément l'effroi que l'orateur cherchait à provoquer. Il voulait que son auditoire se dise que c'était impossible. Parce que la seule façon de surpasser les pharisiens, ce n'est pas de rivaliser sur leur propre terrain.
On ne peut pas les battre en jeûnant 3 fois au lieu de 2.
C'est ça. On ne les battra pas non plus en trouvant de nouvelles herbes aromatiques à taxer. La stratégie de l'orateur, c'est de déplacer entièrement le champ de bataille.
De le déplacer vers où ?
De l'action physique et mesurable, il le déplace vers l'intention psychologique invisible. Et ça, c'est le rôle de la grande section du discours qu'on appelle les antithèses.
Ah oui, c'est là qu'intervient cette fameuse formule rythmique « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis ».
Tout à fait. Et le chercheur Solomon Schachter, qui est mentionné dans les notes, a bien démontré que cette formulation n'était pas du tout une attaque visant à détruire le judaïsme.
C'était quoi alors ?
C'était une méthode rabbinique tout à fait connue à l'époque pour creuser jusqu'à la racine la plus profonde d'un commandement. Prenons le meurtre par exemple.
D'accord. La loi antique dit « tu ne tueras point ».
L'orateur valide totalement ça. Mais il va chercher la racine psychologique du meurtre. Il condamne la colère et le mépris verbal. Il déclare que si tu traites quelqu'un de « raca ».«
Raca », ça veut dire quoi ça peut...
Tête vide, un truc comme ça, oui, c'est vide, bon à rien. Eh bien, traiter quelqu'un de raca te rend passible du Sanhédrin céleste, le tribunal divin suprême. Et si tu traites quelqu'un de fou, tu deviens passible de la Géhenne, donc l'enfer de feu.
c'est intense ?
Oui, parce que pour lui, l'acte physique du meurtre n'est que la conclusion tragique d'un très long processus psychologique qui commence toujours par la déshumanisation de l'autre dans ta tête. Le simple mépris verbal est donc jugé avec la sévérité d'un crime capital.
Le texte s'attaque aussi à un terrain super complexe, celui de l'adultère et de la convoitise. Je me souviens que les notes de Kenner citent une anecdote contemporaine assez intéressante là-dessus.
Oui, l'anecdote du rabbin réformé.
C'est ça. Ce rabbin défendait l'idée que le judaïsme accepte une forme de bonne convoitise saine.
Il reliait ça au concept du yetzir hara. C'est cette inclination naturelle, humaine, ce désir de base qui, lorsqu'il est bien canalisé, nous pousse à bâtir des familles, à fonder des entreprises, à créer de l'art.
Une sorte de moteur vital, en fait. Mais l'orateur antique de notre texte ne laisse absolument aucune place à cette nuance psychologique moderne, n'est-ce pas ?
Aucune. La réfutation est catégorique et elle s'appuie directement sur le 10e commandement original de la loi de Moïse. « Tu ne convoiteras pas ». L'orateur affirme de manière super tranchante que désirer posséder l'autre dans son esprit, c'est déjà avoir commis l'acte d'adultère.
Waouh !
La méditation prolongée sur le désir, la volonté de possession gardée secrète, tout ça est jugé exactement au même titre que l'infidélité physique.
Et pour marteler cette primauté absolue de la pureté intérieure, il recourt encore une fois à cette fameuse hyperbole hyper brutale, s'arracher l'œil, c'est bien ça, hein ?
Oui, il dit que si ton œil te pousse à la chute, il faut te l'arracher. Évidemment, c'est une image. Mais le message est clair, l'intégrité spirituelle intérieure a une valeur infiniment supérieure à ton intégrité physique.
Écoute, si ceux qui nous écoutent veulent vraiment comprendre cette différence de paradigme, moi j'ai une métaphore moderne en tête. Dis-moi ce que t'en penses. C'est lié à l'informatique.
Ah, je t'écoute. Vas-y.
Les pharisiens de l'époque passaient leur temps à construire ce qu'ils appelaient une barrière autour de la loi.
Oui, pour éviter de s'approcher trop près du péché.
C'est ça. Ils débattaient de questions ultra techniques, genre « a-t-on le droit de manger un œuf s'il a été pondu un jour de sabbat par la poule ?»
C'est vrai que c'était très minutieux.
Eh bien, ce système, pour moi, ça ressemble à l'installation d'un antivirus externe superpuissant sur ton ordinateur. Cet antivirus va analyser chaque action, chaque mouvement physique, et il bloque le fichier s'il enfreint les règles. C'est de la pure gestion comportementale.
D'accord, je vois très bien l'image.
Et pour le serment sur la montagne, eh bien, le serment sur la montagne, quand il exige d'être parfait comme le Père Céleste est parfait, il ne cherche pas du tout à fournir un meilleur antivirus à l'ordinateur. Il tente de réécrire entièrement le code source.
Le système d'exploitation de la machine.
Exactement. Le but, c'est de changer la nature même de la machine, à sa racine, pour que l'ordinateur ne génère même plus l'envie d'ouvrir les fichiers corrompus en premier lieu.
Cette métaphore du code source est géniale et elle résume parfaitement notre exploration d'aujourd'hui. Les hyperboles extrêmes qu'on a vues, les dettes impossibles à rembourser, l'œil arraché, le sel recouvert de placenta de mule.
Tout ça prend sens.
Oui, ce ne sont pas juste de jolis ornements poétiques, ce sont des courts-circuits rhétoriques conçus exprès pour faire sauter les défenses intellectuelles du public. L'objectif profond, ce n'est pas de rajouter une couche supplémentaire de règles externes étouffantes.
Ce qui serait une impasse spirituelle de toute façon.
Complètement. L'objectif, c'est de démontrer que si la loi n'est pas inscrite dans ce code source dont tu parles, dans le cœur et dans les motivations invisibles de l'individu, eh bien la morale de façade ne sert strictement à rien.
Ce qui nous laisse d'ailleurs avec une réflexion finale assez vertigineuse, je trouve.
Comment ça ?
Bah, réfléchissons-y deux secondes. Si ce texte ancien exige une perfection interne absolue, et s'il juge les pensées les plus intimes et secrètes, genre une explosion de colère au volant de ta voiture, un désir inavoué, un petit instant de mépris condescendant envers un collègue, s'il juge ça avec la même sévérité juridique qu'un meurtre physique, ça crée un paradoxe psychologique immense, non ?
Ah oui, le poids du fardeau moral.
C'est ça. D'un côté, on peut se demander si cette exigence d'une pureté mentale totale ne crée pas un fardeau psychologique littéralement impossible à porter pour un être humain. Ça peut générer une culpabilité paralysante, parce qu'on ne peut jamais contrôler totalement toutes nos pensées.
C'est les risques, c'est sûr. Mais il y a un revers à cette médaille qui est paradoxalement très libérateur.
Libérateur ? En quoi ?
Parce qu'en plaçant la barre de la perfection à une hauteur aussi vertigineuse, à un niveau qu'aucun pharisien surentraîné, aucun moine ascète, ni aucun être humain normal ne peut espérer atteindre, le texte met absolument toute l'humanité sur un pied d'égalité face à l'échec.
Ah, je vois. Il détruit toute forme de supériorité morale.
Exactement.
en anéantissant toute possibilité pour qui que ce soit de se vanter de sa propre vertu morale devant les autres, cette férocité radicale du texte est peut-être, au fond, la forme absolue et ultime de libération contre l'hypocrisie religieuse.
On est tous dans le même bateau face à une tempête, en somme.
C'est ça. Face à cette tempête, toutes les apparences sociales explosent, les masques tombent, et au final, il ne reste plus que la réalité nue de ton cœur.
Quelle façon puissante de conclure. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette réflexion sur ce texte exigeant. On espère que ça vous a donné matière à réfléchir sur ces dynamiques humaines. À la prochaine.